Le pardon. Une aventure humaine et spirituelle.
Au cours d'une guerre entre deux pays, une rumeur circule. Le camp ennemi vient de faire l'acquisition d'une arme redoutable. On charge alors des aveugles de pénétrer dans le camp ennemi pour espionner l'arme secrète. Leur handicap aidant, ils peuvent s'approcher du nouvel engin de guerre sans éveiller les soupçons. C'était un immense éléphant qu'ils s'empressèrent d'examiner à tâtons. À leur retour au camp, chacun fait son rapport. Le premier espion qui a exploré l'oreille déclare « C'est une grande chose rugueuse, large et flexible, comme un tapis. » Le second qui a sondé la trompe objecte « Mais non, ça ressemble plutôt à un tuyau vide. » Le troisième, qui a exploré une patte, prétend au contraire qu'il s'agit d'un gros et solide pilier. Et ainsi de suite, chacun y allait d'une version contredisant celle de ses comparses. On l'aura deviné. Il est aussi incohérent de décrire le pardon par un de ses aspects que de réduire la description d'un éléphant par un de ses membres. En essayant de décrire les composantes essentielles du pardon, pourrais-je faire mieux que mes prédécesseurs? Je laisse au lecteur le soin d'en juger. Le terme « pardon », tel qu'il est souvent utilisé dans la langue de tous les jours, est trompeur. Il ne traduit pas la réalité complexe qu'il est censé désigner. Il renvoie la plupart du temps à un acte de volonté instantané et isolé de son contexte. Mais le pardon véritable, c'est plus que cela. D'une part, il est plus qu'un acte d'effort volontaire. Le processus du pardon fait appel à toutes les autres facultés de la personne. D'autre part, loin d'être un acte instantané, le pardon se situe dans le temps et s'échelonne sur une période plus ou moins longue. Il comporte un avant, un pendant et un après. Le pardon, pour se réaliser, requiert donc de nombreuses conditions tout aussi nécessaires les unes que les autres. Du temps, de la patience avec soi-même, de la retenue dans son désir d'efficacité, de la persévérance dans sa décision d'aller jusqu'au bout. Aussi, quand je cherche à trouver les expressions les plus appropriées pour le décrire, celles qui me viennent à l'esprit sont conversion intérieure, pèlerinage du cœur, initiation à l'amour des ennemis, quête de liberté intérieure. Toutes ces expressions reflètent la nécessité d'un cheminement. Voici maintenant dessiné à grands traits ce que je considère comme les composantes principales du pardon.
Le pardon débute par la décision de ne pas se venger.
Le plus long chemin commence par un premier pas, dit un proverbe. Le premier pas à faire sur le long chemin du pardon est de décider de ne pas se venger. Non pas une décision prise sous l'élan d'un volontarisme implacable, mais une décision dictée par la volonté de guérir et de grandir.
Le pardon demande un retour sur soi.
Comme un coup de pied dans une fourmilière, l'offense provoque trouble et panique. La paisible harmonie de la personne blessée en est bouleversée, sa quiétude troublée, son intégrité intérieure menacée. Les émotions qu'on avait cru bien calmer s'affolent et se déchaînent. Les vieilles blessures mal guéries ajoutent leur voix discordante à la cacophonie. Grande est alors la tentation de se refuser à prendre conscience de sa faiblesse intérieure et à l'accepter. Plusieurs manœuvres de diversion entrent en œuvre pour empêcher de le faire. Nier, fuir dans l'activisme, essayer d'oublier, jouer à la victime, dépenser son énergie à retrouver le coupable, chercher une punition digne de l'affront, s'accuser soi-même jusqu'à la déprime, se bloquer ou jouer au héros intouchable et magnanime, etc. Céder à de telles manœuvres compromettrait la réussite du pardon qui exige de se libérer soi-même avant de pouvoir libérer l'offenseur. Un regard plus lucide et vrai sur soi-même, voilà une halte obligatoire sur la route sinueuse du pardon. Il peut même mener au désespoir. Étape difficile mais indispensable, puisque le pardon à l'autre doit nécessairement passer par le pardon à soi-même.
Le pardon à la recherche d'une nouvelle vision des rapports humains.
Pour Christian Ducoq, le pardon est invitation à l'imagination. On ne saurait mieux dire, si étonnant que cela puisse paraître. L'imagination joue en effet un rôle essentiel dans la démarche du pardon. Le même auteur écrit également « Le pardon représente cette innovation versus la logique répétitive et inévitable de la justice vengeresse. Il crée un espace où la logique immanente aux équivalences judiciaires n'a plus cours. Le pardon n'est pas l'oubli du passé, il est le risque d'un avenir autre que celui imposé par le passé ou la mémoire. » 1986. Pour s'engager dans la voie du pardon, il est donc important de rêver d'un monde meilleur où la justice et la compassion régneraient. Utopie, dira-t-on ? Rien de moins sûr. Toute création d'un monde nouveau ne commence-t-elle pas par les fantaisies les plus extravagantes ? Le pardon fait donc partie de l'imaginaire. Il comporte une volonté de création, ou encore mieux, de recréation.
Le pardon mise sur la valeur de l'offenseur.
Pour parvenir à pardonner, il est essentiel de continuer de croire en la dignité de celui ou de celle qui a blessé, opprimé ou trahi. Sur le moment, il sera certainement très difficile de le faire. L'offenseur apparaîtra comme un être méchant que l'on condamnera. De plus, pardonner, ce n'est pas seulement se libérer du poids de sa douleur, mais c'est aussi libérer l'autre du poids du jugement malveillant et sévère qu'on porte sur lui. C'est le réhabiliter dans sa dignité humaine.
Le pardon, reflet de la miséricorde divine.
Le pardon appartient en effet à deux univers, celui de l'humain et celui du divin. Dans la conception du pardon, il y a deux erreurs majeures à éviter. La première consiste à réduire le pardon à un comportement purement et simplement humain qui serait motivé par la peur ou par la pitié. L'autre erreur dont on a déjà fait mention est de considérer le pardon comme la prérogative de Dieu seul. On laisse alors peu de place à l'initiative humaine. On affirme du même coup, mais sans nuance, « Dieu seul peut pardonner » ou « Le pardon, c'est l'affaire de Dieu ». Formule qui laisse peu de place à la responsabilité humaine. Certes, c'est l'affaire de Dieu si on entend, comme les traditions juives, chrétiennes ou musulmanes, que Dieu est la source ultime du pardon authentique. Mais le pardon ne se fait pas sans la coopération humaine. Le pardon se situe à la charnière de l'humain et du spirituel. Il est important de respecter ces deux composantes afin de bien les articuler, sinon on risque d'amputer le pardon de l'un ou l'autre élément essentiel.